BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Votre rendez-vous avec TheBitex.com, spécialiste pour vos opérations Bitcoin et crypto.
Parce que les cryptos ne se cachent plus et parce que les blockchains contiennent une partie de notre avenir, les pros des cryptos, c'est chaque vendredi vers 16h40 sur BFM Business avec nos trois experts. Charlie Perrault vient de nous rejoindre, journaliste au JDN, le journal du net, spécialiste des cryptoactifs. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Et bienvenue. Xavier Fenot nous accompagne aussi, Interactive Trading. Et depuis la Lorraine, sa Lorraine chérie, Owen Simonin, alias Hacheur. Bonjour Owen.
Bonjour.
On vous aperçoit le plus gros youtubeur francophone sur cet univers des cryptos. On rappelle d'abord, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi, les cryptos, c'est bien sûr d'abord et avant tout de la diversification, n'y placer que l'argent dont on n'a pas besoin. Ces actifs sont très volatiles. Et alors, on en a une illustration en ce moment avec cette semaine très compliquée qu'on vient de vivre sur les crypto-monnaies, la chute. C'est un vendredi compliqué d'ailleurs qu'on est aussi en train de vivre. On est sous les 50 000 $ actuellement pour le Bitcoin. Owen, que se passe-t-il? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est déjà la fin du bull run sur les cryptos?
Alors, la plupart des experts s'accordent à dire que non, ce n'est pas la fin de ce bull run. On est toujours dans une phase haussière, même après une analyse technique. C'est vrai qu'on a eu un Bitcoin qui a quitté 55 000 $, dont il était plutôt bien logé, pour rejoindre très rapidement les 47 800 $ cette nuit. Aujourd'hui, on stagne à peu près autour des 48 000 $. Alors, des raisons, il y en a toujours plein de gens soupçonnent plein de choses. En attendant, il y a quelque chose qui ressort énormément, c'est les annonces de Joe Biden, le président des États-Unis, qui veut réajuster certaines taxes, notamment des taxes sur les plus-values des investissements, et donc les gens qui investissent dans les crypto-monnaies assujettis à ces taxes, en voulant les faire passer de 20% à 39,6%. C'est-à-dire presque les doubler, son objectif étant de récupérer à peu près 1000 milliards qu'il veut fournir dans son plan de relance, également pour investir dans l'éducation et dans le développement de ce secteur. En attendant, énormément d'investisseurs se voient touchés et voient du coup leur bénéfices réduits. Certaines personnes disent que c'est cette annonce qui a fait pas mal de peur, qui a lancé un mouvement de panique. Et comme vous le savez, dans les crypto-monnaies, un marché avec une partie des investisseurs de jeunes investisseurs, le mouvement de panique s'est amplifié, il y a eu des liquidations qui ont été faites et petit à petit ça a poussé le Bitcoin à perdre de la valeur durant la nuit et juste. En attendant, malgré tout, on reste sur une tendance haussière et il y a même certains experts qui trouvent que c'est une correction saine qui va assainir la hausse que le Bitcoin va retrouver très bientôt.
Est-ce que c'est votre point de vue, Xavier? Est-ce qu'on est sur une correction saine? Est-ce qu'on approche de point d'entrée sur le Bitcoin ou il faut laisser, comme on dit en bourse, les couteaux tomber?
Alors effectivement, c'est vrai que ça fait un peu du mal, pour notamment pour les nouveaux entrants qui arrivent dans ce marché-là, avec une perte de 25% comme ça en quelques jours, en 10 jours sur les cryptos. Alors il y en a certaines d'ailleurs qui perdent plus, d'autres qui perdent moins. Mais ça fait partie en fait du monde de crypto-monnaie. Depuis un an, depuis qu'on a entamé cette phase de bull run, quasiment une dizaine de fois, le Bitcoin a perdu entre 20 et 30% de sa valeur. Il y a un an, lorsque le Covid est arrivé, il avait perdu 65% de sa valeur en quelques jours. Donc, d'un côté, on ne peut pas espérer faire du x2, x3, x10, voire certaines cryptos x100 ou 150 depuis le début de l'année, et ne pas accepter des reculs comme ça de 20-30%. Et je suis tout à fait d'accord avec Owen qui disait que c'est sain, en fait, dans ce type de marché, parce que c'est vrai que quand ça monte trop vite, il y a trop d'euphorie, et généralement, après l'euphorie, il y a des mouvements de panique attisés par peut-être celles et ceux qui font aussi de l'effet de levier. Après, d'un point de vue technique, est-ce qu'il faut payer maintenant ou est-ce qu'il faut attendre que ça aille mieux? C'est vrai que ce sont des stratégies finalement différentes, c'est-à-dire que à très court terme, on voit que depuis 10 jours, on a une pression baissière technique, c'est-à-dire qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. En fait, c'est comme si on sautait à pieds joints, et en fait, le premier rebond est plus fort que les précédents, et en fait, on s'épuise au fur et à mesure, donc les rebonds sont de plus en plus faibles. Et c'est exactement ce qu'on a une dizaine de jours, on a une pression baissière qui s'est installée. Donc on peut attendre peut-être que cette pression baissière se dissipe pour rentrer. On n'aura pas le point bas, mais au moins on attendra que la psychologie redevienne acheteuse. Ou alors on a des niveaux horizontaux. 44 000 $ sur le Bitcoin, c'est un beau niveau horizontal technique. On a également 30 000 $, même si ça se ferait mal d'anticiper qu'on a jusque là-bas. Et à très court terme, on a les 51 500 $. Si on devait repasser au-dessus de cette zone-là, déjà, ça irait un petit peu mieux.
Voilà, donc des explications fondamentales à cette baisse des cryptos, et particulièrement pour le coup du Bitcoin. Sur l'Ethereum, la semaine a quand même été plus favorable. Donc une explication fondamentale que nous a porté Owen, des explications techniques, les effets de levier aussi. Tout à l'heure, Grégory Volokhin nous disait que sur Binance, par exemple, avec un investissement de 80 cents aux États-Unis, pour 80 cents, vous contrôlez 100 dollars de futurs sur Bitcoin, ce qui crée aussi cette volatilité. Alors on parlera donc tout à l'heure aussi des autres cryptos, et notamment de l'Ethereum. Un mot aussi de Coinbase. Quand même, Xavier, l'euphorie retombe aussi sur Coinbase en bourse. Le titre Coinbase a perdu plus de 10% depuis l'introduction. Il recule encore d'ailleurs cet après-midi à Wall Street. C'est une simple respiration d'après vous sur Coinbase ?
Oui, alors le Coinbase, il faut savoir que c'est quand même étroitement lié à ce qui se passe bien évidemment sur les cryptos. Donc plus il y a de volatilité, plus ça inquiète un petit peu justement les investisseurs sur Coinbase. Et moins ils font profit si bien évidemment on rentre dans un marché baissier, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment sur les cryptos. Donc c'est vrai que c'était la nouvelle qui avait attisé peut-être aussi un petit peu d'euphorie sur les cryptos. Et maintenant que c'est passé, bah peut-être qu'on vend aussi la nouvelle. Donc on est passé de 350 dollars, là on est à peu près autour des 300 dollars. Donc il n'y a pas de panique non plus, on est à plus de 2% pour le moment sur l'action. Mais c'est vrai que voilà, on enchaîne un petit peu les petites mauvaises nouvelles les unes après les autres, après avoir eu que des bonnes nouvelles jusque-là.
En effet. Alors, les chiens font pas des chats et le Dogecoin nous en apporte la preuve. Une autre crypto, hein, le Dogecoin, qui n'a pas connu le même sort que les autres, puisque son cours a plutôt bien résisté cette semaine, plutôt une belle semaine sur le Dogecoin. C'est quoi d'ailleurs le Dogecoin, Owen ? De quoi on parle à travers le Dogecoin aujourd'hui ?
On parle probablement de la plus grosse blague de l'histoire des crypto-monnaies. Le Dogecoin est une blague, hein. C'est comme ça qu'il a été présenté en 2013. Quelqu'un veut profiter du coup de la montée en puissance des crypto-monnaies et créer une crypto-monnaie à l'effigie du Shiba, le Shiba Inu. D'ailleurs, le logo du Dogecoin, hein, c'est une tête de Shiba sur une pièce. Sauf que cette blague est quand même assez bien pensée parce que premièrement, elle fonctionne, c'est-à-dire que la blockchain du Dogecoin fonctionne et permet d'envoyer des Dogecoins pour presque rien, d'accord, c'est on peut le dire presque gratuit. Du moins le Dogecoin ne valait rien du tout, on était sur 0,0002 cents il y a de ça encore quelques semaines, et on se retrouve avec un Dogecoin qui explose, qui a tapé les plus de 30 centimes de dollars pièce, faisant de sa valorisation qui avait déjà été un record en 2014 à 60 millions de dollars, en 2021 on a tapé les 50 milliards de dollars de valorisation.
Impressionnant, Charlie, là-dessus, sur le Dogecoin, qui aura bien résisté en plus cette semaine et qui partait d'une simple blague. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors c'est vrai que je crois que c'est 400% là, il l'a fait en une semaine, et même depuis début janvier, il a fait plus 8000%.
Plus combien ?
8000, ouais, c'est difficile à dire, mais c'est assez incroyable parce qu'effectivement, même en termes de valorisation, là aujourd'hui, on est autour de 30 milliards. Donc c'est vrai que c'est difficile à dire, c'est 30 milliards, mais quand on voit même, j'aime pas trop les comparaisons, mais société général qui est par exemple valorisé 18 milliards d'euros, donc ça fait 22 milliards de dollars. Enfin, on voit tout de suite un petit peu l'euphorie autour de tout ça. C'est aussi la 7e aujourd'hui crypto-monnaie en termes de valorisation. 7e. En dessous ce qui s'appelle Cardano et au-dessus de Polkadot, qui sont deux très gros projets blockchain, qui sont des projets sérieux, solides.
Donc 7e crypto-monnaie, pour les non-spécialistes, c'est bien. Il y en a des centaines, des milliers même.
Des milliers d'ailleurs. On n'a pas de chiffre déjà exact. Et même quand on voit aujourd'hui sur Twitter, il y a des tweets tous les jours. C'est la deuxième crypto la plus commentée aujourd'hui. On parle de à peu près, je crois, 23% de total des tweets qui sont sur le Dogecoin. Donc c'est vrai que ça peut porter à sourire, mais effectivement, comme le dit Owen, c'est, je pense, la blague la plus rentable du monde.
C'est incroyable, Xavier. Qui sont-ils ? Qui sont ces gens qui ont décidé d'investir dans le Dogecoin ? Est-ce que vous en connaissez ?
Malheureusement, ce ne sont même pas les créateurs. C'est-à-dire qu'il paraît qu'ils ont déjà tout largué il y a quelques années, donc ils sont même plus dedans. Mais on a priori des informations comme quoi une personne détiendrait 28% du marché. Avec 5 portefeuilles, il détiendrait 40% de l'ensemble des Dogecoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un gros, à un moment donné, qui appuie sur le bouton en disant « bon, je vais commencer effectivement, comme a dit Charlie, fois 150 depuis le début de l'année, on est simplement au mois d'avril ». Je prends un petit peu mes bénéfices et là, à ce moment-là, ce sera la fin de la blague et la fin du jeu finalement. Donc attention quand même, on sait que c'est une blague, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience, on peut y participer, Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui décide à un moment donné que la blague se termine pour que ce soit terminé.
Owen, là-dessus, vous voyez beaucoup de monde justement s'intéresser au Dogecoin. Vous, le YouTuber qui avait un réseau absolument gigantesque dans cet univers des bitcoins, qui est au contact des investisseurs, vous sentez qu'il attire ce Dogecoin ?
Alors, énormément de questions et énormément d'intérêts. Également des investisseurs qui se demandent pourquoi ça monte, si c'est qu'une blague, pourquoi ça prend autant de valeur. Et on peut regarder deux petites informations. La première, Elon Musk qui joue de Dogecoin et qui s'amuse même sur ses réseaux sociaux à remplacer CEO de Tesla ou de SpaceX sur certaines positions pour dire CEO de Dogecoin. Et même la communauté, hein, Dogecoin a été fondée sur Reddit, le même forum que Bitcoin. Mais la communauté de Reddit, c'est également la communauté qui a fait exploser GameStop en bourse il n'y a pas longtemps. Bref, pas mal de coïncidences. En attendant, qui a propulsé cette blague à la place qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la 7e plus grosse crypto-monnaie actuellement en circulation.
Voilà, alors il y a une tête de chien qui apparaît pour ceux qui suivent BFM Business à la télé. Ce n'est pas la tête d'Elon Musk, hein. C'est bien le symbole du Dogecoin. On est là, on en est là. C'est le symbole de cette crypto qui cartonne en ce moment. Et à l'instant, Owen nous apportait deux explications pour...
Oui, bah effectivement, sur Tesla, le patron de Tesla qui en a beaucoup parlé, et puis on le sait qu'à chaque fois qu'il fait un tweet, en fait, tout de suite après, il y a une hausse soit du cours de Tesla, soit du cours du Bitcoin. Et là, effectivement, cours du Dogecoin, ça c'est on l'a vu ces derniers mois et encore même ce mois-ci. Mais il faut quand même, faut pas oublier que Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Il les a pas investis dans le Dogecoin. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment un gros partisan de cette crypto. Et effectivement, comme Owen l'a marqué, il y a une très très grosse communauté quand on voit sur Reddit. Et il y a eu aussi l'affaire de GameStop qui avait donc ruiné pas mal de hedge funds. Et après, ils s'étaient attaqués effectivement au Dogecoin et ils s'étaient tous rués et ça avait fait aussi, et ça avait participé en tout cas au début de l'explosion de ce cours. Et il faut savoir que c'est quand même 6 millions d'abonnés, quoi.
Et sur la semaine, vous nous le disiez, Dogecoin, alors que le Bitcoin a beaucoup souffert, le Dogecoin a gagné 400%. Oui, 400%. Est dans des actifs ultra spéculatifs et volatiles. Oui. C'est une auditrice qui réagit sur Twitter et qui nous dit « Ceux qui investissent en Dogecoin franchissent le Rubicon. » Le Rubicoin, c'est un jeu de mots. Ben voilà, Caroline, elle s'appelle Caroline. On aura cité votre jeu de mots à l'antenne. Est-ce qu'il existe d'autres crypto-monnaies parodiques, Owen ?
Oui, tellement que je ne sais même pas vraiment d'en citer. J'en connais très très peu qui ont une image comme celle du Dogecoin, qui est une blague qui perdure et qui est malgré tout soutenue par des mineurs, par un réseau et par des investisseurs. Mais on a eu le Macron Coin, le nombre de présidents qui ont eu leur coin alors que c'est pas eux qui l'ont créé, bien entendu, on ne le compte plus. Et autant vous dire que quand le Dogecoin a explosé ce week-end, on a vu 3-4 races de chiens devenir assez connues et avoir leur propre crypto-monnaie. Donc il y a quand même des gens qui essayent de surfer sur cette tendance. Mais à part Dogecoin, je connais quand même peu de blagues du genre qui sont notables et qui méritent l'attention de beaucoup de monde.
Charlie.
Oui, non, on n'en voit pas beaucoup, effectivement, dans le top 100, après des cryptos qui ont vraiment des grosses valorisations. Mais puis, évidemment, il y a au moins plus de 2000 crypto-monnaies. Donc, forcément, que dans l'eau, oui, il y a énormément de blagues. Mais bien, ce que je voulais quand même dire aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, alors pas des blagues, mais là, des arnaques. Donc là, c'est un petit peu moins drôle. Parce que les blagues, ils sont assez transparents, en fait. On voit, le Dogecoin dit toujours, voilà.
C'est assumé.
C'est assumé. Donc, on le sait. Bon, faut comprendre peut-être un petit peu la subtilité. Mais alors qu'au contraire, il y a énormément d'arnaques parmi les milliers de cryptos qui existent. Et là, il faut faire super attention. D'ailleurs, la plus grosse arnaque aujourd'hui, une des plus grosses en tout cas qu'on connaît, ça s'appelle OneCoin. Et c'est une arnaque qui a été, c'est un système de Ponzi. Et qui a été, c'était une entreprise bulgare. Le patron a été arrêté il y a un petit moment. Et c'était une arnaque qui a coûté quand même 3,5 milliards de dollars. Donc c'est pas rien. Faire super, super attention, on le rappelle toujours.
Mais comment on fait attention ? C'est une question pratico-pratique qu'on peut se poser. Comment savoir si une crypto-monnaie est une blague ou une arnaque ou quoi que ce soit d'autre ? Owen, est-ce qu'il y a des moyens comme ça d'objectiver les choses, de détecter les blagues, les arnaques dans l'univers des cryptos ?
Alors, mine de rien, plus on est dans l'univers des cryptos et plus on a l'habitude, plus ça paraît évident. En attendant, pour un débutant qui analyse une crypto-monnaie et qui se demande si elle est sérieuse, je lui donnerai 5 petits points qui sont pour moi les axes les plus intéressants à regarder. Le premier point, c'est la team. D'accord ? On va analyser un projet crypto comme on analyserait une entreprise. Mais en réalité, plus la valorisation et l'analyse d'un très jeune projet ou d'une start-up, car les projets crypto sont très souvent très très jeunes, très nouveaux, très innovants et donc technologiques. On pourrait se perdre et avoir comprendre ce que fait le projet, et pourtant on doit s'y intéresser. Donc le premier point, c'est la team, et vraiment valoriser son fondateur, son équipe. Est-ce que ce sont des gens de confiance ? Est-ce qu'ils sont connus ? Est-ce qu'ils se cachent ? Ou est-ce qu'on peut vraiment la main dessus. Mine de rien, c'est une première analyse importante. Le deuxième point, ça va être la technologie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Est-ce que c'est faisable? C'est des fois plus dur pour un particulier de le savoir, mais en cherchant un peu sur Internet, on a aujourd'hui de la documentation, des discussions, des forums, et on peut savoir si c'est faisable ou non. Le troisième point, ça va être, mine de rien, si c'est faisable, est-ce que finalement ça va être utile? Est-ce qu'il y a des fondamentaux? Est-ce qu'il y a un usage? Est-ce que si cette solution existerait, est-ce que je serais moi-même le consommateur de cette solution? Et ensuite, il y a deux points qui sont propres à la blockchain. Le premier, ce sont les tokens métriques. C'est bien beau d'avoir un projet phénoménal avec une grosse équipe, une bonne entreprise. Imaginez qu'ils créent leur crypto-monnaie. Si on se rend compte dans les tokens métriques que le fondateur détient 95% des crypto-monnaies qui vont être créées, il faudrait vraiment pas se jeter sur les 5% en circulation, car vous allez valoriser tout le projet et l'entrepreneur lui-même et non pas développer cette solution. Et pour finir, il y a des petits détails qui sont propres à la blockchain, comme par exemple, on l'avait vu, le halving day du Bitcoin. Tous les 4 ans, le Bitcoin devient 2 fois plus rare et à ce moment-là, son prix a tendance à monter. Des petits détails techniques qui font que quand on va investir dans une crypto-monnaie, si on a l'information que les autres n'ont pas pris le temps d'avoir, on a un avantage certain en l'achetant et en prenant une position.
Charlie, là-dessus, des moyens, une méthode, un mode d'emploi pour essayer de distinguer les cryptos sérieuses des autres?
Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Même moi, en tant que journaliste, faut quand même toujours. C'est normal que je vérifie. Mais moi, je me repose beaucoup sur les gens de la communauté, d'ailleurs, par mes interlocuteurs. Il y a aussi une très grande communauté en France qui s'appelle CryptoFR, et vous pouvez aller leur poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre, qui va vous dire oui, ça, c'est une arnaque, ce qu'on appelle aussi plus communément un scam dans le milieu, puisque sinon, c'est assez compliqué. Voilà, vous tapez Google, vous tapez ça et vous allez peut-être voir remonter des articles, puisque aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers, elle publie une liste noire régulièrement qu'elle met à jour de plateformes de trading, dont des plateformes de crypto, qui sont des arnaques, mais c'est vrai qu'elle ne publie pas en tant que telle une liste de crypto. Donc c'est vrai, c'est super compliqué.
Faut beaucoup travailler. Voilà. Même quand on est spécialiste, on a du mal à séparer, trier, on dit quoi, séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Et il faut le faire. Hein, dans l'univers des cryptos, peut-être plus encore. Non, comme partout ailleurs. Et les cryptos, comme tout placement, c'est d'abord de la diversification. Alors, certains pays ne blaguent pas, eux, avec les crypto-monnaies. L'un des événements qui ont déstabilisé aussi les esprits cette semaine, c'est la Turquie. La Banque centrale de Turquie a interdit l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement. Ça alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le marché, Owen?
Alors oui, il y a toujours de toute façon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le marché est baissier, les investisseurs crypto sont vraiment, vraiment baissiers dans leur tête et dans leur comportement. Et quand le marché est haussier, ils ont une grosse prise de confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc la moindre information peut être mal interprété, peut avoir un gros impact et donc une cascade d'engagement qui va amplifier encore plus cette baisse. Donc quoi qu'il arrive, un pays qui interdit ses particuliers d'utiliser le Bitcoin, c'est une mauvaise nouvelle qui peut affecter les cours. Après, la particularité quand on zoome sur cette situation, c'est que le livre turc était en train de s'effondrer. De plus en plus de particuliers cherchaient à sécuriser leurs valeurs et se sont naturellement tournés vers les crypto-monnaies mais également les métaux précieux. Autant vous dire que la Turquie n'interdira pas l'or. Par contre, le Bitcoin, on est dans une phase de réglementation où on peut se permettre d'empêcher et d'interdire, du moins légalement, les gens de se tourner vers cette technologie. C'est un petit peu dommage, c'est un peu verrouillé à double tour, la seule porte de sortie de certains, mais c'est ce qu'a fait la banque turque.
Oui, la Turquie, où les crypto-monnaies sont vraiment utilisées en masse, Charlie?
Au final, quand même.
En Turquie,
ça marche, effectivement, pour se protéger de l'inflation, comme dans pas mal dans d'autres pays, en tout cas du monde. Et donc, il y a Chainalysis, qui est une grosse société qui permet de tracer toutes les transactions sur la blockchain, qui nous a dévoilé que les volumes de transactions en Bitcoin dans le pays ont représenté 218 milliards de livres. Donc, c'est 22,6 milliards d'euros entre début février et le 24 mars. Donc c'est quand même pas rien. Mais alors après, on parle évidemment d'achat-vente sur des plateformes, puisqu'en fait aujourd'hui la Turquie a interdit le paiement. Donc au final, ça va pas non plus changer beaucoup de choses, puisqu'il y a très peu de gens par contre qui payent en crypto, mais par contre qui le traitent beaucoup effectivement dans ce pays.
Oui, dans ce pays, dans d'autres pays aussi. Vous le disiez, la livre turque est très volatile. Xavier, on vous rejoint à nouveau. C'est vrai que les cryptos, parfois, servent d'instrument de couverture lorsque la devise est particulièrement volatile, qu'il y a une inflation, bref, des phénomènes violents dans les économies nationales.
Clairement, parce que là, on est dans une inflation quand même qui est estimée de l'ordre de 15% en rythme annuel. on a les taux directeurs de la Banque centrale qui ont été relevés à 19% pour essayer de lutter contre l'inflation. Donc forcément, il y a une grosse perte de confiance. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver d'autres moyens. Après, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Faut savoir qu'aujourd'hui, il faut 8 livres turcs pour avoir un dollar américain. Il y a 5 ans, il en fallait 2 livres turcs pour avoir un dollar américain. Donc on est sur des records du dollar donc américain face à la livre turque. Et ça peut se poursuivre. Et forcément, les investisseurs ont plus tendance à privilégier ce type de crypto. Et malheureusement, puisqu'on parlait de scam tout à l'heure, en plus en Turquie, on a une plateforme à voir si ça va se confirmer ou pas au cours de ces prochains jours. Todex en Turquie, la plateforme en fait, le fondateur est parti avec la caisse, avec 2 milliards de dollars. Il y avait 400 000 utilisateurs. Tout le monde a essayé de retirer un petit peu justement ces cryptos et finalement le site a été fermé et la plateforme offrait notamment au travers de campagnes publicitaires des voitures de luxe, des millions de Dogecoin, etc. Et finalement le fondateur est parti et vu dans d'autres pays, donc forcément ça n'est pas effectivement notamment la Turquie à accepter les crypto-monnaies.
C'est le moins qu'on puisse dire, alors que la Chine elle au contraire se montre de plus en plus enthousiaste sur le Bitcoin. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Un dernier mot, puisque le Bitcoin souffre cette semaine sous les 50 000 $ aujourd'hui, on en a parlé longuement au tout début des pros des cryptos. À l'inverse, l'Ethereum a bien tenu cette semaine, Xavier.
Oui, alors c'est justement un peu la tendance depuis le début du mois d'avril. C'est l'Ethereum contre le Bitcoin. En fait, si on tape sur une plateforme ETH-BTC, on voit la surperformance, c'est-à-dire que l'Ethereum progresse beaucoup plus que le Bitcoin et baisse moins vite. Et finalement, on voit que l'Ethereum, alors que le Bitcoin, lui, est effectivement sous une pression baissière, comme on l'a vu tout à l'heure, l'Ethereum, si on prend simplement des moyennes mobiles, ça permet de lisser la tendance sur le temps, une moyenne mobile à 20 jours ou 50 jours, très simplement, on voit qu'on est toujours au-dessus de celle-ci. Donc ça montre que finalement, même à très court terme, l'Ethereum aujourd'hui ne perd que, entre guillemets, 4%, alors qu'il y a peut-être des paniques un petit peu plus prononcées ailleurs. Donc encore une fois, il n'y a pas que le Bitcoin non plus, il y a aussi d'autres cryptos qui en profitent plus, qui en profitent moins en fonction des périodes, et l'Ethereum en fait partie.
Merci à tous les trois. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Xavier Fenot, trader et coach pour Interactive Trading. Charlie Perrault, qui m'aide à préparer ce rendez-vous, à coordonner les avis des uns et des autres. Merci beaucoup, Charlie. Journaliste au JDN, le journal du net. Et un grand merci à distance à Owen, qui nous accompagne également chaque vendredi, alias Asher, le plus gros YouTuber francophone sur cet univers des cryptos. Bon retour, bon week-end à tous les trois. Le Bitcoin sous les 50 000. Donc, on y reviendra, bien sûr. Le CAC 40 est en légère baisse de 0,26%. On va se reconnecter au marché dans une poignée de secondes et vivre ensemble la clôture de cette nouvelle semaine boursière. A tout de suite sur BFM Business.
C'était votre rendez-vous avec TheBitex.com, spécialiste pour vos opérations Bitcoin et crypto.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.